Bonsoir. Je me réjouis de me retrouver avec vous. On m'a téléphoné il y a une semaine et on m'a dit « Monsieur Gou, est-ce que vous prêchez le vendredi soir ?» Alors j'ai dit « Est-ce qu'il y a des jeunes le vendredi soir ?» On m'a dit « Oui, il y aura des jeunes le vendredi soir. » Alors je dis « Oui, je prêcherai le vendredi soir. » Parce que je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien de se retrouver sous le regard du Seigneur. Les cantiques qui ont précédé, je crois, nous ont préparés. Je pense qu'on est prêts à vivre ce week-end, à partager ce sujet que je pourrais aborder comme étant inépuisable. Je me suis bien sûr penché sur ce sujet cette semaine et je me suis dit, tiens, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 prédications à faire. Et quand j'ai terminé, je me suis dit, non, tu pourrais en faire une vingtaine, très, très sincèrement. Tellement c'est un sujet qui revient sans cesse dans la parole de Dieu. Nous chantons des cantiques qui expriment certainement justement ce qu'il faut découvrir, c'est-à-dire apprendre à connaître Dieu. Alors, on n'est pas nombreux ce soir, c'est très bien. Il n'y a pas un peu d'écho? Un peu trop d'écho? J'ai l'impression d'avoir une voix bizarre, d'avoir 3 laryngites, un truc comme ça en même temps, non? Comment? C'est la salle? C'est pas moi? Moi, j'ai une belle voix normalement. Ouais. Voilà. Demain, on changera de salle, bien entendu. Voilà, vous trouvez une salle à Avignon, à Perpignan, à Paris. Ça m'est égal, mais je passe de salle. Voilà, oh, je suis pénible des fois, ouais. C'est ce que ma femme me dit. Alors, ce sujet, c'est un sujet extrêmement sérieux. Tellement sérieux que le dernier chœur qu'on vient de chanter exprime en vérité une grande expérience, c'est que Dieu veut parler. Dieu parle, vous connaissez ces textes, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Voilà. C'est vrai qu'il y a des versets qui sont très 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 ciblés, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Vous avouerez que Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Souvent Dieu vous a parlé. Et vous avez dit, j'ai compris. Et pourtant on était de retour à la maison. Et on s'était fait piéger par des activités. Ou alors on a entendu un témoignage qui nous a bouleversé. Ça vous est jamais arrivé dans le cadre d'une réunion d'entendre un témoignage vraiment formidable qui vous a bouleversé. Et à l'écho de ce témoignage, vous avez dit, Seigneur, il faut que je change. J'ai compris. Et pourtant, on est arrivé à la maison et on a oublié la décision que l'on avait prise. Notre frère qui a fait chanter a répété à plusieurs reprises le fait de vouloir. Et c'est vrai que la bénédiction dépend énormément de la façon dont on se décide pour Dieu. Je suis en train de faire une étude sur Hébreux 11, vous savez, ce microcosme de la Bible qui rappelle des expériences extraordinaires des hommes de Dieu. En fin de compte, à un moment donné, tous, ils ont décidé. Je discutais dernièrement avec des jeunes qui me parlaient de vision. Je dis, mais c'est bien, je suis pour qu'on ait une vision qui corresponde au plan de Dieu. Mais vous pouvez avoir une vision si vous ne vous décidez pas à faire quelque chose pour que cette vision s'accomplisse, ça sera un rêve. Et c'est pas comme ça que les choses marchent. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Mais justement, Dieu sait que le fait d'écouter ne suffira pas. Il le sait, il sait comment on fonctionne, il vous connaît le Seigneur. Vous comprenez bien, il sait comment je fonctionne. Il y a des choses, on peut me les dire, je sais que c'est vrai, je les ai même comprises, je les ai même acceptées, mais ce n'est pas pour cela que je vais vivre ces choses. Je pensais, parce que le sujet, je vous dis, dans la Bible, est pour ainsi dire illimité, c'est un vrai puits sans fond. Saul de Tarse, vous connaissez Saul de Tarse? Saul de Tarse, par exemple, il était très très informé de la nouvelle voie qui circulait à Jérusalem. D'ailleurs, il s'était engagé à détruire l'église, vous connaissez l'histoire. Et il avait assisté à la lapidation d'Étienne, vous vous rappelez? Vous avez lu le livre des Actes? Qui a lu le livre des Actes? Qui n'a pas lu le livre des Actes? Vous n'avez pas lu le livre des Actes? C'est bien, c'est pas grave. Mais vous allez le lire. Demain matin, je veux que vous l'ayez lu. C'est comme ça. Si vous voulez être dans la prochaine salle où on sera demain matin, il faut que vous ayez le livre des Actes. Il n'y a que 27 chapitres. Comme par hasard, il avait assisté à la lapidation d'Étienne. Vous ne croyez pas que Dieu avait voulu qu'il soit là?
Pourquoi Dieu, allez, on parle, on n'est pas nombreux, pourquoi Dieu a-t-il permis que Saul de Tarse, qui respirait le meurtre et la menace, soit comme par hasard à l'exécution ou à la lapidation d'Étienne? Est-ce que d'après vous, Dieu ne voulait pas lui parler? Sérieusement, Dieu lui parle. Ça ne l'a pas changé. Il a vu certainement ce que tous les autres ont vu, à savoir que le visage d'Étienne ressemblait à un ange, et certainement qu'il a dû entendre énormément de choses sur les chrétiens et sur la parole. Rien n'y a fait. Il a fallu que Dieu provoque l'adversité dans sa vie, vous savez de quelle façon, pour pouvoir lui parler. Je prends cet exemple, il y en a 200 ou 300 dans la Bible sans problème. Pour que vous compreniez qu'il faut. Alors, on va lire quelques textes. Par contre, ce soir, on peut le faire. Autorisez-vous à lever la main et à me couper pour me poser une question. Si vous le désirez, on l'intégrera dans l'enregistrement. Ça peut se faire dans le cadre d'un séminaire. Alors, il y a des textes. Alors, ce soir, moi, j'ai pour ma première prédication, j'ai... Attendez. J'ai pas commencé les notes. Je... 16 pages. À savoir qu'une page correspond à peu près à 20 minutes. Voilà. Tu as le temps de lire le livre des actes pendant la prédication. Je voudrais que vous compreniez une chose. C'est qu'il faut, ça sera peut-être la ligne de conduite du séminaire, il faut que nous traversions des épreuves. Il le faut. Regardez avec moi dans 1 Pierre. Alors, je vous encourage, par contre, même si... Tout est enregistré et que vous pourrez vous procurer donc le MP3. Je vous encourage quand même à prendre un papier et à noter les textes que vous pourrez méditer. Car il n'y a rien de plus puissant, je crois, que la méditation de la parole de Dieu. C'est bien, je vais vous l'expliquer, je vais expliquer certaines choses je ne les expliquerai pas. Mais je vous encourage, tous les versets que je vais vous donner, notez-les. C'est pas parce que c'est important pour moi, mais ça l'est pour vous. Et vous le vérifierez dans les mois à venir, combien le Saint-Esprit peut prendre un verset, le rappeler à votre âme, parce que vous l'aurez bien intégré. C'est écrit, il vous enseignera et il vous rappellera. Dans 1 Pierre au chapitre 1er, au verset 6, il est parlé du fait qu'on est attristé. On peut être attristé. Regardez bien. C'est là ce qui fait votre joie, 1 Pierre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si vous prenez le temps de méditer ces deux versets, vous voyez que c'est tout à fait normal d'être attristé. C'est pas parce qu'on est triste, des fois on entend des slogans « chrétien triste, c'est un triste chrétien », c'est pas vrai. Il y a un temps pour pleurer, c'est tout à fait normal d'avoir des moments de tristesse. C'est pas parce qu'on est triste qu'on n'a pas la paix de Dieu, c'est pas parce qu'on est triste qu'on n'est pas en communion avec Dieu, ça a aucun sens. Voyez, attristé par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et si vous, l'or par exemple, l'or pur n'existe pas, il faut qu'il soit travaillé. C'est pour ça que Dieu compare notre vie purifiée à de l'or purifié, parce que de la même manière que l'or a besoin d'être purifié, notre vie a besoin d'être purifiée pour être la vie que Dieu voudrait qu'elle soit. Et pour résultat, nous allons voir pendant ce week-end qu'il doit y avoir des résultats. Il y en a des bons, à cause des bonnes réactions. Normalement, ils devraient être tous bons, même si on souffre. Mais on peut court-circuiter le plan de Dieu. Comme Caïn, quand Dieu s'est approché de lui et qu'il lui a dit mais pourquoi tu t'irrites ? Vous rendez compte, Dieu a pris le temps de lui parler, il va lui expliquer, le péché se coûte à ta porche, domine sur lui, etc. Il ne va pas accepter le conseil de Dieu, et le résultat c'est qu'il va finir comme un misérable, vous connaissez les textes, malheur à ceux qui suivent la voie de Caïn, etc. On peut court-circuiter le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous parle et ce n'est pas parce qu'une chose va nous arriver qu'elle va concourir à notre bien. J'aimerais vous l'expliquer si j'ai le temps. Ce soir, quand il est dit « toute chose concourt au bien » et c'est pas fini, de ceux qui aiment Dieu. Toute chose ne concourt pas forcément bien. Si on n'aime pas Dieu comme on va le voir, il n'est pas obligatoire que les choses concourent au bien. On peut lire juste un peu avant, dans l'épître de Jacques, il est mentionné, c'est un des textes qu'on utilise le plus pour enseigner justement l'épreuve. Jacques chapitre 1er verset 2, vraiment, notez du verset 2 au verset 12, parce qu'il y a tout un enseignement qui va justement de l'épreuve au résultat. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, elle est pour résultat la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. La gloire et l'honneur dont Jésus parle dans ce texte, c'est pas la sienne, c'est la nôtre. Ça, je ne prends pas le temps de l'expliquer. Vous savez que Dieu nous réserve pour sa gloire également. On connaîtra la gloire, l'honneur, l'immortalité. Ce sont des choses extraordinaires. Le résultat. Là, le résultat, c'est au verset 12, vous le verrez. Donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Après, il y a toute une exhortation sur la façon dont on doit se comporter dans la prière, et il parle du résultat. Verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Vous observerez dans chaque texte qu'il y a, quand il nous est parlé de l'épreuve, il y a toujours un résultat. Il y a toujours un résultat. Là, il est parlé d'une couronne de vie. C'est une récompense conditionnelle qui dépend de notre comportement dans l'épreuve. Ce que je voudrais surtout qu'on voit ce soir, c'est que l'épreuve, c'est archi compliqué, l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un sujet affolant. Et c'est pour ça que c'est une épreuve. Si on savait comment ça va se terminer, ça ne serait plus une épreuve. Si quelqu'un est au chômage, et si je vous dis le 23 juillet, vous trouverez du travail, c'est plus une épreuve. Vous me suivez? Une épreuve, pour que ce soit une bonne épreuve, il faut qu'il y ait beaucoup de brouillard. Vous me suivez? Pour comprendre l'épreuve, il faut peut-être commencer à écouter Dieu. Quand Dieu dit certaines choses, c'est important. Dieu ne parle pas comme nous on parle. Nous on parle, on dit des choses qui ne sont pas forcément importantes. On dit des choses, on les regrette. Même des fois dans la prédication, on dit des choses qui sont charnelles. Elles ne sont pas forcément inspirées. Quand j'ai dit au jeune homme, pour les actes qu'il n'a pas lus, ça n'a ni queue ni tête, ça. Vous voyez? Vous comprenez, je veux dire? C'est pas inspiré. Vous comprenez, je veux dire? Tout ça pour vous dire... Bon, on peut se permettre, quand on passe 3 ou 4 jours ensemble, de présenter les choses avec un peu d'humour, ce n'est pas malsain. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est important. Tout ce que Dieu dit est important. Il y a des gens qui discutent avec Dieu, ils vont avoir de sérieuses difficultés lorsqu'ils rencontreront des épreuves. C'est pour ça qu'il y a des textes clés qui nous permettent de savoir comment nous comporter dans l'épreuve. Alors, est-ce que c'est possible de considérer l'épreuve comme un sujet de joie? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire, oui, moi, l'épreuve, c'est chaque fois un sujet de joie. Voilà, ouais, vraiment, je suis d'accord, je souscris. Vous comprenez que ce n'est pas pour rien qu'il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tout ça, c'est collé ensemble. Pour que nous apprenions à voir les choses comme Dieu veut que nous les voyons. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, s'il y a quelqu'un qui se trompe, ce n'est pas Dieu. C'est toujours nous qui nous trompons. Et cela nous apprend à nous préparer à rencontrer certaines épreuves, de dire, bon, je ne me réjouis pas pour l'épreuve en soi, mais je me réjouis de ce que je vais apprendre une fois que l'épreuve sera terminée. C'est ça que ça veut dire. C'est comme une opération, personne ne saute de joie parce qu'il va se faire opérer les poumons, je veux dire, ou se faire amputer la jambe. Merci. Non mais, pourtant l'opération elle est nécessaire, en vue du résultat. C'est exactement la même chose. Personne ne saute de joie. mais il y a une véritable satisfaction de savoir que l'opération va contribuer à la guérison et à la restauration et à l'équilibre, etc. J'ai beaucoup hésité pour la première réunion, sachant qu'on est sur un petit comité, est-ce que je fais quelque chose à part, sachant que demain, est-ce qu'il me faudra revenir sur certaines choses, mais ça fait rien. Je pars du principe, comme c'est enregistré, tout le monde fera un petit peu son affaire avec ce qui est enregistré. Ce que je voudrais vous dire, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu règne. C'est une évidence. Il règne au siècle des siècles. Il règne sur tout. Focaliser sur l'épreuve et ne penser qu'à nos épreuves en oubliant le fait que Dieu règne, on va manquer d'assurance. Dieu vous aime. Dieu ne joue pas avec vous. Vous n'êtes pas des pions que Dieu déplace pour faire aboutir ses plans. Vous êtes un de ses enfants. Vous avez de la valeur à ses yeux. Vous comprenez ça? C'est important. Dieu vous aime d'une manière particulière. Et même s'il y a des choses par hasard, quand Jésus apprend la mort de Lazare, il dit aux 12, je me réjouis de ce que j'étais pas là. Vous connaissez le texte? Vous me faites confiance? Je me réjouis. Non, il y en a un qui ne me fait pas confiance. Et Jean chapitre 11. Bon, j'ai l'habitude. Jean chapitre 11. Il apprend que son ami vient de mourir, que deux de ses amis sont dans le deuil. Il n'a pas répondu à l'invitation de ses deux amis pour aller les rejoindre parce qu'il est en train de mourir. Et regardez ce qu'il leur dit. Jean, méditez ce chapitre 11. Pour comprendre l'épreuve, vous pouvez faire votre analyse vous-même, votre méditation vous-même. Vous avez besoin des pasteurs pour votre édification, mais vous pouvez faire certaines expériences également tout seul. Et Jean chapitre 11, verset 12. On va dire le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Ses disciples dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que j'étais pas là. » Enfin, si les apôtres étaient comme nous, je pense qu'ils ont dû mal comprendre. Son ami vient de mourir, ses deux amis sont dans le deuil, et lui, il dit, « Je me réjouis. » Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des clés, ça, dans la Bible. C'est des clés dans un chapitre, c'est ce que j'enseigne aux pasteurs, en formation, qui permettent de comprendre le sens. Ça n'empêche pas que Jésus, quand il est en contact avec le deuil de Marthe et de Marie, au verset 35 de ce même chapitre, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et ces deux versets, qui paraissent être complètement contradictoires, vous permettent de comprendre que le Seigneur, lorsqu'on traverse une épreuve, peut se réjouir du résultat qu'il va avoir. Mais il compatit à notre douleur lorsqu'on la traverse. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'était pas des pions, que Dieu déplaçait pour faire aboutir ses plans et montrer sa gloire. Non, nous sommes dans un schéma de communion, de grâce, d'affectif, bien sûr de la puissance de Dieu. Dieu règne au siècle des siècles. Dieu a toujours régné. Il y a eu des siècles d'abondance en France, Dieu régnait. Il y a eu des siècles de peste, Dieu a toujours régner. C'est une chose qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il règne sur votre vie? Parce que c'est quelque chose qui va vous aider à gérer l'épreuve. C'est pour ça que l'apôtre dit, mais rendez grâce. N'est-il même pas écrit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. C'est dit dans un aspect sérieux, à savoir d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, quand je vois quelqu'un, je vous le dis parce qu'en même temps, je me permettrai de vous ouvrir mon cœur de temps en temps. Moi, quand je vois quelqu'un qui parle en langue et qui, en même temps, après les cultes, tout le temps en train de se plaindre, je trouve qu'il y a un méga décalage. Moi, c'est des choses que j'ai énormément du mal à comprendre. J'ai ma petite explication, mais ce n'est pas la peine que je la livre. Mais franchement, je crois que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il s'applique, même si ce n'est pas évident, à faire ce que Dieu lui demande, rendez grâce. Quand on ne rend pas grâce, on se ferme des portes. Vous voyez, on pourrait dire, oui, c'est facile de dire, tu rends grâce. C'est comme ça que ça commence à aller mal. Si Dieu nous demande de rendre grâce, il faut le faire. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Moi, je sais où c'est qu'ils sont les pénibles. Mais ce n'est pas dans les commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si Dieu nous demande quelque chose, c'est pour que nous soyons comme canalisés dans cette grâce de Dieu. Il y a quelques textes dans la parole de Dieu, moi, qui m'ont étonné. Je pense à un texte, par exemple, où ils se sont plaints parce qu'ils étaient dans le désert. Ils se sont plaints. On voit plusieurs fois ce texte. Moi, ça m'a travaillé, ça. On peut en lire un dans le psaume 78, par exemple. Tout ça, ça se recoupe avec une pensée de rendre grâce, mais en comprenant que Dieu règne. Et puisqu'il nous demande de le faire, ça va provoquer un état d'esprit. Parce que vous savez, la vie avec Dieu, c'est un état d'esprit. On n'est pas spirituel, occulte. Ça, c'est la religion. Les gens qui sont pieux à l'église, qui ont un vocabulaire religieux à l'église, on en voit des fois. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à comprendre, mais je sais que ça existe. Des gens qui ont un vocabulaire religieux à l'église, ils sont très, très pieux, etc. Mais dès qu'ils se retrouvent avec les païens, ils ont un vocabulaire de païens. Voilà, ça s'appelle la religion. Mais c'est pas la piété. Vous le comprenez. Dans le psaume 78, il est rappelé le parcours du peuple d'Israël. Par exemple, ils murmurent. Vous voyez, ils murmurent. Verset 18, ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Vous voyez? Verset 21, l'Éternel entendit, il fut irrité, un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Après, il leur donne du blé, il leur donne la manne, etc. Il leur donne de l'écail. Regardez, verset 29. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans leur bouche. Qu'est-ce qui se passe au verset 31? Lorsque la colère de Dieu s'élève contre eux. Regardez bien, s'il vous plaît. Vous ne trouvez pas que la réaction de Dieu semble disproportionnée avec le comportement des frères? Sérieusement, vous me répondrez? Il y a 18 pages. J'en suis ici, là. Est-ce que vous ne trouvez pas que la réaction de Dieu semble disproportionnée? La colère de Dieu s'enflamme alors qu'ils ne font que râler. Non? Comment vous pensez? Aidez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et vous avez plusieurs fois que la colère de Dieu s'enflamme parce qu'ils ont adoré des idoles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ils font que râler. Que murmurer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, si la colère de Dieu s'enflamme, vous comprenez bien que c'est quelque chose de profondément sérieux. C'est que lorsque l'on murmure, lorsque l'on râle, on se ferme la porte. D'ailleurs, ils sont morts dans le désert. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été en enfer. Mais ils ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu parce que ils ont murmuré. Et quand le Seigneur nous demande de rendre grâce, de considérer les épreuves, après, bien sûr, c'est à moi, tout le long de ce séminaire, de vous expliquer certaines clés, certains comportements, et de voir surtout le résultat lorsqu'on réagit bien. Mais des fois, on dit, c'est pas grave, c'est sûr que, qu'est-ce qui vaut mieux? Un chrétien qui murmure ou un chrétien qui a commis l'adultère? Comment? Non, mais il y a des péchés graves quand même, qui ont des conséquences graves. Vous êtes d'accord avec moi? C'est terrible les conséquences que ça peut avoir dans un foyer lorsqu'il y a de l'infidélité. Ça doit être terrible ces choses. Mais voyez, le plan de Dieu peut être, court-circuité parce qu'on murmure. Et Dieu en plus est obligé de nous faire traverser des épreuves. C'est ça que je vous expliquais pendant tout ce week-end. Dieu ne peut pas faire autrement parce qu'on n'écoute pas. On pourrait, je pense, se priver de beaucoup d'épreuves. Dieu pourrait nous dispenser de beaucoup d'épreuves si on apprenait à écouter. C'est certain. Mais comme on n'écoute pas, c'est comme l'histoire que j'avais racontée, je crois, en 2002. Vous savez, de ce fermier qui voulait vendre un âne. Il voulait, c'est une histoire vraie. Il arrive au marché, vous savez comment ça se passe. Vous avez été dans des foires. Vous allez à la foire de temps en temps, aux bestiaux. Il faut aller aux foires aux bestiaux. Il y a beaucoup de leçons spirituelles. Les fermiers, vous savez, avant que la cloche ne sonne pour que les commerçants, les acheteurs puissent acheter leur bétail, ils regardent. Et puis il y en a un qui vantait son âne. Il vantait son âne et il lui dit « Mon âne, vous pouvez l'acheter ». Il fait tout ce qu'on lui dit. Vous lui demandez de se lever, il se lève. Vous lui demandez de s'asseoir, il s'assoit. « Ah bon ? On peut essayer ? Mais oui, allez-y ! » Et puis il y a un futur acquéreur qui va voir l'âne et il lui dit « Couche-toi ! » Et l'âne ne se couche pas. Mais tu vois bien, il n'écoute pas. « Couche-toi !» Et l'âne ne se couche pas. « Assis-toi !» Il n'écoute pas ton âne. Alors le propriétaire, il va devant l'âne, il prend son bâton, il tape un grand coup sur la terre. « Tac ! Couche-toi !» Et l'âne, il se couche. Il obéit, l'âne, mais il faut attirer son attention. Ah, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit « Tiens, mais c'est... » C'est bizarre comment on lui ressemble. C'est pas un peu vrai? Il faut que Dieu puisse attirer notre attention. Et je pense vraiment, par mon expérience et par l'expérience des frères, etc., qui ont quand même des années et des décennies de conversion, que tous les témoignages se recoupent, à savoir que le temps nous permet de faire véritablement confiance en Dieu. Parce qu'en vérité, là, dans le psaume 78, si vous êtes toujours dans le psaume 78, au verset 22, le problème, c'est tout le temps un problème de confiance. Ils n'eurent pas confiance dans son secours. Le vrai, vrai, vrai problème, il est là. On y reviendra dans la suite. C'est un problème de confiance. Est-ce que vous croyez que Dieu dirige tout, que Dieu gouverne tout? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vraiment Dieu règne sur tout? Que quand Jésus dit « Tous les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas, qu'aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. » Il y en a des moineaux. Il y en a des passereaux, des corbeaux, des pies, des rouges-gorges, etc. Il y en a sur terre. Est-ce que c'était une plaisanterie? Est-ce que ce jour-là, Jésus il avait envie de... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il va plus loin. Les oiseaux, encore ça va. Mais quand il dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés, c'est vrai ou c'est pas vrai? Comment vous l'interprétez ça, vous? Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un enseignement. Je ne pense pas que Dieu compte les cheveux des gens. Ouais, je pense, sérieusement, je sais qu'il est tout-puissant, mais bon, quand même. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il connaît tous les détails de notre vie. Tous. Des cheveux, il y en a qui ont... Vous avez tombé des cheveux, là, vous le savez? Est-ce que vous savez que pendant la réunion, on perd des cheveux? C'est pas moi qui vous fais perdre les cheveux. J'espère que vous n'arrachez pas les cheveux. Mais vous perdez des cheveux, vous le savez. Vous ne les voyez pas tomber, les cheveux, hein? Est-ce que vous avez regardé les cheveux de quelqu'un tomber pendant la réunion? Mais c'est sérieux ce que je vous dis. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est pour vous faire comprendre une chose, c'est que ce que nous, on ne voit pas, le Seigneur le voit. Moi, je crois qu'il est là, l'enseignement. C'est pour vous expliquer que vraiment Dieu règne sur tout et que les chrétiens, ils doivent commencer à rendre grâce. J'ai fini ma première page. C'est vrai que si nous commençons à nous rebiffer lorsqu'il y a une épreuve, lorsque je ne comprends pas quelque chose, je n'accepte pas. Et pourquoi Dieu a permis? J'ai entendu ça. Pourquoi Dieu a permis que ma fille se marie avec un inconverti? Mais c'est sûr que la femme, elle souffre et elle a de quoi souffrir. Mais est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère parce que, un de nos enfants s'est marié avec un inconverti? Il y a des gens qui se sont mis en colère, ils ont quitté l'église. Et alors, on pourrait donner des centaines d'exemples de gens qui se sont mis en colère contre Dieu parce que Dieu n'a pas interdit certaines choses, parce que Dieu n'a pas empêché certaines choses. Vous savez, l'épreuve, ça va très, 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 très loin. Croyez-moi, on le verra certainement. Rendez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Les diverses épreuves. Ça touche. Qu'est-ce que ça veut dire, les diverses épreuves ? Si demain vous offrez la Bible à quelqu'un, il a lu ce texte, il vient vous voir, j'ai lu, c'est quoi ça ? Il faut se réjouir des diverses épreuves. C'est quoi les diverses épreuves ? Dans quel domaine on peut être éprouvé ? Tous ? Dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut, un couple peut avoir des épreuves ? Est-ce que des parents avec des enfants peuvent être dans l'épreuve ? Est-ce qu'on peut avoir des épreuves au travail ? Est-ce qu'on peut avoir des épreuves dans l'église ? Dans l'église ? Ben oui. Qui on est pour dire qu'il faut que les gens soient tellement parfaits que... Hier, quelqu'un me disait, quelqu'un venu à la maison, c'est un patron qui venait me voir par rapport à des ouvriers chrétiens. Il me dit, ouais, je comprends pas. Je dis, moi, je comprends. Que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut être plus exigeant non plus. Je crois qu'un chrétien, il se doit d'être très sérieux. Mais je crois qu'un chrétien, il peut commettre une erreur aussi. Et c'est pas parce qu'il commet une erreur qu'il faut de suite remettre en question tout. Vous me suivez ? Les diverses épreuves, dans tous les domaines. Il y a des gens qui sélectionnent, oui, des épreuves au boulot, c'est normal, je travaille avec des inconvertis, j'accepte. Mais des épreuves à la colonie, avec d'autres animateurs, non, je n'accepte pas. Si c'est ça, travailler dans une colo, ben vous allez vous court-circuiter. Et surtout, non pas seulement vous fâcher, mais vous allez surtout passer à côté de ce que Dieu veut vous apprendre dans cette affaire. Parce qu'une des choses que Dieu veut que nous apprenions, ça nous dépasse un peu, on l'a lu, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. S'il y a une chose que Dieu veut vous apprendre, c'est la patience. Et tout le monde dit Amen. C'est une parce que ça permet énormément de mettre en relief le potentiel de la personne. Parce que Dieu sait ce qu'il peut faire avec vous. Vous êtes jeune. Quand Dieu vous regarde, moi je vous regarde, je vous vois. Mais je vois de vous, si je discute avec quelqu'un, je peux, en fonction de l'entretien, discerner certaines choses. Ça c'est vrai, en toute humilité. Les pharisiens, lorsqu'ils se baladaient, qu'ils voyaient Pierre pêcher, ils voyaient un pêcheur, un type sans instruction, un pauvre type. Il n'était pas instruit, donc c'était vraiment un pauvre mec. Quand Jésus a regardé Pierre, il a vu quelqu'un qui allait bouleverser le monde. Bon, il y avait des réglages à faire, hein. On le verra. On le verra demain, certainement, ou dimanche. Il y avait quelques réglages à faire au niveau du caractère, de la personnalité, de la propre confiance, de la propre force, etc. On va le voir comment Dieu a dû s'y prendre pour permettre même à que Satan le crible, etc. Qu'il accepte que Satan le crible pour que ça fasse partie du plan de Dieu. Mais vous... Vous savez pas. Vous savez pas ce qu'il y a derrière votre appel. Vous savez pas ce que Dieu peut faire avec vous, mais Dieu le sait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous comprenez bien que Dieu ne va pas faire en sorte que vous vous contentiez de ce que la majorité des chrétiens veulent, c'est-à-dire, on le voit, écoutez la prière de certains chrétiens, ça c'est pas un jugement que je porte, mais quand même pendant les cultes, des fois on n'entend que des prières, Seigneur, et bénis-moi, et bénis ma tante, bon, mais c'est bien de prier pour les gens malades. Mais on voit que la majorité des prières tournent autour de la protection, de la bénédiction, de la prospérité, etc., de la santé, et des intérêts vraiment importants pour nous. Mais je crois que nos prières devraient aussi dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous avez vu Saul de Tarse, le gars qui respirait le meurtre et la menace. Quand Dieu l'a arrêté brutalement sur le chemin, il n'a pas dit, ah, t'es vivant, ah, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Il est vivant. Je t'ai combattu, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Seigneur? Vous avez vu la première parole de Paul? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous auriez choisi, vous, un gars qui persécutait l'Église, vous auriez choisi un gars qui respirait le meurtre et la menace? Vous avez déjà respiré avec quelqu'un qui est plein d'amertume? Est-ce que vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui est plein d'amertume? Jamais? Vous le choisiriez, vous, pour être le prochain chantre de l'Église? Mais Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un peut être rempli de méchanceté, mais quand il est confronté à la beauté de Jésus-Christ, il peut immédiatement changer. Et je ne sais pas où vous en êtes, mais ce que je veux que vous compreniez pendant ce séminaire, c'est que Dieu sait ce que vous pouvez être. Bien sûr que les gens, ils vous regardent, oui, lui, là, là encore, il n'a pas fait beaucoup de progrès. Oui, mais peut-être que ce week-end, le week-end prochain, dans un moment de communion avec lui, vous allez avoir une révélation de sa grâce et vous allez faire des progrès énormes. Dieu sait, vous, peut-être, vous vous destinez à être, je ne sais pas moi, je donne un exemple, infirmière peut-être dans telle ville, mais peut-être Dieu veut que vous soyez infirmière dans un dispensaire en Afrique pour faire du bien à des multitudes d'enfants qui seront guéris, bénis et qui découvriront l'Évangile. À la convention de Montluçon, moi, il y a quelque chose qui m'a touché parce que vraiment c'était important pour moi au niveau du travail social dans les pays à l'étranger. Ils ont parlé que dans les assemblées de Dieu en Inde, il y a je ne sais plus combien de chrétiens, mais il y a 400 pasteurs des ADD en Inde. Sur les 400 pasteurs, 200 sont des orphelins qui sont sortis, des ex-orphelins bien sûr, qui sont sortis des orphelinats que M. Clément Lecossec a mis en place il y a bien 30 ou 40 ans. Moi, ça m'a touché, ça. Grâce à un homme, Clément Lecossec, peut-être il se destinait, je ne sais pas à quoi il se destinait, monsieur, j'ai lu son témoignage, je ne me rappelle plus à quoi il se destinait. Eh bien, vous voyez, il est parti en Inde, vous ne savez pas. Et Dieu le sait, lui. Il n'y a que Dieu qui sait la pression que vous pouvez subir de sa part. Mais Dieu sait ce que vous pouvez être. C'est pour ça qu'il faut être sérieux. Moi, le pasteur qui m'a formé, il m'a dit, Gérard, ça m'a marqué ça au début. Il m'a dit, sois sérieux et ne te prends jamais au sérieux. J'ai dit, ça va, ça me plaît. Vous ne trouvez pas que c'est bien ça? Mais il faut être sérieux. Avec Dieu, il faut être sérieux. Le salut des âmes, c'est sérieux. L'éternité des gens, c'est sérieux. La façon dont le Seigneur veut nous toucher, nous transformer, c'est sérieux. Et ça commence avec un état d'esprit. La vie chrétienne, c'est un état d'esprit. On n'est pas chrétien pendant un séminaire, et puis quand on repart, on est mondain ou on est charnel. Tout ça, ça se travaille, même si on continue à être un petit peu charnel, bien sûr. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et j'aimerais voir deux ou trois raisons quand même. Deux ou trois raisons. La première, c'est dans Lamentations de Jérémie. Pour vous montrer que Dieu règne. Vous savez, je suis pasteur, il y en a plusieurs parmi nous, non? J'ai vu monsieur Serré. Ah, il est déjà parti. Ah, il est là? Non, je croyais qu'il était parti. Il me l'avait dit, si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Bon, ça va. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Vous ferez d'énormes progrès si vous vivez. Parce que la vérité, le pasteur qui m'a formé me l'a dit ça aussi. Gérard, la vérité, ne la dis pas. Vis-la. Vous savez, on peut la dire, la vérité, mais c'est une autre chose de la vivre. Regardez, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Je vous ferai remarquer que ce sont des questions. Il y a des centaines de questions dans la Bible, c'est Dieu qui les pose. La politesse voudrait que nous répondions aux questions. Qui dira? Qu'est-ce que vous dites, Étienne? De ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Alors là, il donne l'explication. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que, attention, vous avez vu, réjouissez-vous de vos épreuves. Il n'est pas dit de nous réjouir des épreuves des autres. Sans commentaire? Sans commentaire. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Dieu règne. Il ne subit rien. Même, voyez, quand l'ennemi provoque certaines choses, comme dans l'épreuve de Job, vous vous rappelez l'épreuve de Job, l'intention, elle vient de qui? Qui sait qui a l'intention de détruire Job? C'est le diable. Qui sait qui donne l'autorisation? Dieu. L'histoire de Pierre, quand il dit à Pierre et aux apôtres, Satan vous a réclamé, l'intention vient de Satan. Il dit pas, mais moi, le Seigneur, j'empêcherai Satan de vous cribler. Non, il dit, je vais laisser faire. Mais je vais prier pour que votre foi, bien sûr, soit maintenue. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'adversité, elle vient, on le verra, l'adversité peut venir de Satan, mais à partir du moment où nous sommes ses enfants, ça devient la volonté de Dieu. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu, même si l'ennemi permet une épreuve, cette épreuve-là, que vous le vouliez ou non, elle deviendra la volonté de Dieu. L'adversité peut venir de Satan, de Dieu lui-même, alors là il n'y a que l'embarras du choix pour le revoir, et de nos propres péchés. Alors là c'est une autre chose quand on souffre à cause de notre propre péché. On y reviendra là-dessus. Mais ce texte nous dit que Dieu est un Dieu qui règne, il ne subit pas. Des fois les gens nous disent, oui mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse faire, il ne gouverne plus. Dieu ne subit pas, il règne. Si vous le comprenez, dans une épreuve, vous serez libre. Vous en avez des épreuves, même déjà jeune vous en avez. Si vous comprenez ça, que Dieu règne sur votre épreuve, vous accepterez votre épreuve. Et par expérience et par témoignage d'avoir reçu, je crois qu'à partir du moment où un chrétien accepte l'épreuve, il dit merci, pas par résignation, bêtement. Il faut dire merci, 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 pourquoi tu dis merci? Je dis merci, on m'a dit de dire merci au séminaire Aga, merci. Bon, là je pense qu'il faut se reposer, vous voyez, bon, vous savez, il faut faire les choses par conviction quand même. Non mais je vous le dis parce qu'il y a des, on voit des chrétiens des fois qui bon, ils ont du mal à comprendre, peut-être c'est nous qu'on explique mal, je le conçois. Mais il faut faire les choses toujours par conviction. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous comprenez quelque chose, méditez-le, acceptez-le et surtout faites-le par conviction. Dieu règne sur toute chose. Il est ajouté que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu ne règne pas sur le péché par contre, ça c'est clair que bon quand même il faut être sérieux. Dans une vie où on tolère volontairement le péché, Dieu ne règne pas. Ce qui se passe souvent c'est qu'il l'a voulu. Ça, on appelle la volonté permissive de Dieu, il y a des choses que Dieu permet, il laisse faire. Après bien sûr à nous d'en tirer les conséquences. Je parlais de l'affaire de Job, c'est une affaire terrible ça. Ça vaudrait la peine de faire tout un séminaire sur le livre de Job. Mais vraiment, tellement c'est riche d'enseignements. Donc la première chose qu'un enfant de Dieu doit apprendre avec conviction, c'est de rendre grâce. C'est pour ça qu'il est dit, rendez continuellement grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit... On entend, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quelqu'un qui ne rend pas grâce, il n'est pas en adéquation. Il y a un truc qui ne va pas. Puisque Dieu dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre, enracine encore plus la pensée en disant, voilà, c'est la volonté de Dieu que vous rendiez grâce. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se court-circuitent et ne peuvent pas dire, oui, ça concourt à mon bien, tu parles, toutes choses concourent au bien. Oui, mais finis la phrase. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu, ils disent, oui, je ne comprends pas. Dieu a dit à Pierre un jour, ce que tu ne comprends pas, ben, tu le comprendras plus tard. Et pourtant, c'était quelqu'un quand même. Voilà. Dieu contrôle toute chose. Je parlais des cheveux de notre tête qui sont tous comptés, c'est pour nous montrer que tous les détails de notre vie sont connus. Quand il nous arrive quelque chose, il y a des gens, ils informent Dieu. Vous avez remarqué des fois dans les réunions de prière, tu sais Seigneur, comme si Dieu n'était pas au courant, tu sais la dame, tu sais, Seigneur, cette dame à qui j'ai parlé dans l'ascenseur, tu vois qui c'est, la dame là, avec le chapeau vert, tu sais qui fait ses courses à Intermarché le dimanche. Mais je pense que quand on prie, Dieu doit être au courant de tout. Non, mais c'est pour vous montrer la perception que les gens ont de la souveraineté de Dieu. Dieu règne sur tout. Il connaît tout. Il est partout. Il est omniscient. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Alors, que dira-t-on? Qu'est-ce que vous dites si les chrétiens ne le croient pas? Écoutez, si les chrétiens ne le croient pas, ça va être difficile. Et il y a des églises où on ne loue pas Dieu. Moi, j'ai raconté déjà ici, il y a quelques années, quand j'ai pris l'église de Groyer dans le temps, j'étais jeune pasteur, les chrétiens ne faisaient que se plaindre. Alors, ils louaient Dieu, merci Seigneur pour le salut de mon âme. Alors, pendant le culte, c'était d'une joie. Et puis après le culte, ouais, il y en a marre, on ne peut rien faire dans cette ville, ouais, ça ne sert à rien de distribuer prospectus. Et pour le premier culte, bon, Deuxième culte, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Au bout d'un mois, j'ai dit, bon, pendant que je prêchais, j'ai dit, c'est bizarre, pendant le culte, vous louez Dieu, et après le culte, vous louez le diable. C'est drôle. Et je ne savais pas comment ils allaient réagir. Et ils ont très bien réagi. Et après les cultes, ils ont dit, allez, non, Dieu est vivant. Il va nous aider. Et je vous assure qu'on a vécu des choses formidables dans cette petite église. Vraiment, on a vécu des trucs merveilleux. Ils ont appris à rendre grâce. Rendre grâce, c'est pas on loue le Seigneur de 10h à 11h30 le dimanche matin. C'est un état d'esprit que l'on entretient continuellement. Rendez continuellement grâce. Pourquoi? Non pas parce que je comprends. C'est pas avec quand on a confiance à Dieu, on n'a pas besoin de comprendre. Quand on a confiance en Dieu, on sait qu'il agira quand il devra agir. À moins que nous court-circuitions en nous plaignant comme les Hébreux dans le désert, et c'est là qu'on comprend que la colère de Dieu s'est enflammée. Il n'y aurait pas de raison que la colère de Dieu s'enflamme, mais bien sûr que si, il y en a une. C'est que Dieu ne peut plus travailler avec des gens qui font que murmurer. C'est beaucoup plus sévère que ce qu'on pense, murmurer dans une église ou murmurer à l'intérieur de son cœur. La deuxième raison qui nous pousse à comprendre la souveraineté de Dieu, on va la lire, c'est dans Ésaïe 37. Dans Ésaïe 37, au verset 26, le Seigneur nous parle des choses qu'il a préparées. Ésaïe 37, verset 26. N'as-tu pas appris, je vous ferai remarquer, c'est des questions encore. N'as-tu pas appris, là aussi, est-ce qu'on a appris? Paul dira souvent, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mais ça, c'est un grave problème. Le problème, on y reviendra, là, je résume certaines choses, je lance des pistes pour les prochaines réunions. Le problème, c'est que dans nos églises, alors je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais on a des gens qui ne sont pas convertis. Ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais ils ne se sont pas convertis. Ça fait qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Alors comment voulez-vous que les gens ils en sortent? C'est un problème d'ignorance. Les gens, ils n'apprennent pas. Et Dieu, il dit, mais tu n'as pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que je les ai résolues dès les temps anciens, maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Dieu, il sait ce qu'il fait. Tout est sous ton contrôle. Bien sûr que nous n'est pas capable de comprendre pourquoi Dieu va faire telle ou telle chose. Quand Dieu a demandé à Abraham, va sur le mont Morija et offre ton fils en sacrifice. Je veux dire, il l'a mis à l'épreuve. Ça, c'est de l'adversité. C'est une épreuve, ça, de devoir donner son fils à Dieu dans un contexte avant la loi où c'était la pratique païenne des cultes de Moloch où on offrait ses enfants en sacrifice pour faire venir la pluie ou pour arrêter la pluie. Enfin, c'était la religion païenne de l'époque. C'est pas une épreuve, ça? Est-ce qu'il a compris? Il a pas, dans 25 ans, il a demandé un fils? 25 ans? 25 ans, il a attendu une promesse? Quand Dieu lui donne la promesse, 15 ans après, il la lui reprend. Tu y comprends quelque chose? Mais il l'a fait. Le résultat? Pendant toute sa vie, écoutez bien, j'ai parlé, parce qu'on va voir l'épreuve en résultat. Toute sa vie, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, écoute Abraham, tu vois, si tu fais ça, je te bénirai. Lisez tout, vous verrez. Abraham, si tu fais ça, je te bénirai. Tout le temps, tout le temps. Et là, c'est pas si tu fais ça. Mais il lui dit, je le jure de par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as obéi, je te bénirai. C'est Genèse 22. Je le jure parce que tu as fait ça, je te bénirai. Quand Dieu nous éprouve, il y a quelque chose derrière. Il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Il sait la pression que vous pouvez supporter. Peut-être qu'une jeune fille acceptera telle épreuve parce qu'elle peut la vivre. Une autre jeune fille ne pourra pas. Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. N'ayez pas peur de Dieu. Si je vous parle de la souveraineté de Dieu, c'est pour que vous ayez confiance en lui. Il est grand, le Seigneur. Et il vous aime. C'est une question d'amour. C'est pas une question de pression. On n'est pas sur un ring de boxe. Celui-là, je vais le tester. Quoique, Dieu connaît la pression que certains peuvent subir. Mais ça vaut la peine parfois. d'accepter certaines épreuves. Dieu le savait. Vous vous dites, ouais, je comprends pas, pourquoi j'ai perdu mon boulot, pourquoi j'ai perdu mon boulot. Peut-être que Dieu vous en donnera un de meilleur. Mais est-ce que c'est ça, concourir au bien? Ben, c'est peut-être pendant les 2 mois où vous allez être au chômage. Dieu va rétablir peut-être votre relation avec vos parents ou avec votre épouse. Quelqu'un un jour m'a dit, ah, j'ai pas compris pourquoi j'étais au chômage. Mais ça a sauvé mon foyer. Dieu il savait. Vous croyez qu'il a perdu le boulot comme ça? Ça a sauvé un foyer. Est-ce que ça valait la peine? Lui prier, Seigneur, donne-moi un meilleur boulot. Il a trouvé un boulot moins bien. Mais est-ce que c'était quoi, concourir au bien? C'était un meilleur boulot? Ou le bien, c'était pas de la part de Dieu que son foyer soit sauvé? Vous voyez? Et c'est ça que je veux que vous compreniez pendant ce séminaire. Parce que pour nous, le bien, c'est tout le temps, et bien le confort. Est-ce que c'est ça pour vous, la vie avec Dieu, que le confort? Vous avez du confort? C'est bien si vous en avez. Bénissez le Seigneur, rendez grâce. Si vous avez du confort, j'ai une nièce qui vient de partir pour sa formation pour diriger un hôtel au Vietnam. Elle me dit, mais tonton, on a plein de choses en France, ça sert à rien. Là-bas, ils vivent avec rien, j'en reviens pas. On a plein de trucs, ça sert à rien. Il faudrait quand même les apprécier. Ouais. Dieu sait ce qu'il fait. Toujours, toujours, toujours. N'as-tu pas appris? Je crois qu'un des problèmes, il est là. Et Paul le dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ce séminaire, il faut vraiment qu'il nous permette d'apprendre. Alors, ça sera peut-être au niveau intellectuel, mais il faut le méditer afin que ça devienne pratique. Bon, les pharisiens, ils méditaient la parole. Les pharisiens, ils connaissaient les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Ils sondaient les Écritures, mais ils ne voulaient pas de Jésus. Ce n'est pas un problème de méditation, c'est un problème de le vivre. Abraham, quand il a accepté l'épreuve, vous savez ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a fait dans la foulée, après que Dieu lui ait dit « je vais te bénir ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant. Youpi, je vais te bénir. T'as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a offert un sacrifice et il a donné un nom nouveau à Dieu. Et ce nom, c'était Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il savait. Il le vivait, il a voulu, il connaissait le nom le nom de Jésus. Des fois, moi, je vois, on chante le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, le nom dans la Bible, c'est le caractère de la personne. Nous, le nom, c'est devenu une espèce de formule. Moi, je vois des fois les gens, ils parlent le nom de Jésus, le nom de Jésus. Mais je dis, mais c'est quoi pour vous le nom de Jésus? Ils ne savent pas. Mais le nom nous parle du caractère. Vous allez donner un nom à votre enfant parce que le prénom vous plaît. Non? Comment vous appellerez votre fils, mademoiselle devin, quand vous en aurez un? Vous savez pas? Je ne sais pas. C'est un prénom, ça? Je sais pas. En principe, on donne parce que là, le prénom nous plaît. Mais dans la Bible, on donne un nom pour le caractère. Et Jésus, c'est tout un caractère. Et connaître Dieu, on l'a chanté dans le premier chant, je ne sais plus comment c'était, mais de le connaître, on est là pour le connaître. Et voyez, l'épreuve, il faut qu'elle soit conjuguée au fait d'apprendre à connaître ce Dieu qui connaît tout, qui contrôle tout. Il sait tout, il ne se trompe jamais. Dans le livre de Job, vous avez vu le livre de... Mais qui a lu le livre de Job? Il y a 42 chapitres, c'est quand même... Moi, la première fois que j'ai lu le livre de Job, je me suis dit, ouais, c'est un livre sur l'épreuve, tu vas avoir toutes les réponses. Et quand j'ai lu le livre de Job, j'avais que des questions. Mais que des questions. Il est dans l'épreuve et Dieu va lui parler des animaux, de l'autruche, de l'hippopotame, de la biche, comment elle enfante. Job va lui poser une 30aine de questions. Dieu le laisse parler. Et Dieu va lui poser une 100aine de questions. Et tu sais comment l'autruche, elle fait ci. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit ou c'est pas écrit? Si, bien fait, bon. C'est extraordinaire, la création. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était quand on voit d'où ça part en plus. Ça part dans les cieux, alors que Job, le matin, il est en train de discuter avec sa femme, il a ses 10 enfants, il est prospère et tout, et dans les cieux, il y a un truc qui se manigance de folie. Et on voit là, tu sais, la biche, l'enfant. Vous savez pourquoi Dieu lui a dit ça? Moi, j'ai compris un jour. Vraiment, j'ai compris. Le combat, il était spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? C'était dans l'invisible, ça se menait. Parce que vous savez, il y a le visible et il y a l'invisible. Et Dieu était en train de dire à Job, mais Job, si tu ne sais pas comment l'âne sauvage, il fait son truc là-bas au fond. Si tu ne comprends pas ce qui se passe autour de ta ferme, si tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau du physique, qu'est-ce que tu peux comprendre ce qui se passe dans l'invisible? Mais fais-moi confiance. Et on ne comprend pas tout. Vous ne comprendrez pas certaines choses, même que les hommes pourraient vous expliquer. Mais dans cette affaire, c'est une histoire quand même. Parce que là, je vous la résume. Mais dans cette affaire, qui c'est qui s'est trompé? Job s'est trompé. Sa femme s'est trompée. Ses amis se sont trompés. Le diable s'est trompé. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Et quand vous découvrez le caractère de Dieu, plutôt que de dire le nom, je préfère dire le caractère, quand vous découvrez au fur et à mesure que vous vivez, parce que la vérité, je le répète, elle doit se vivre au fur et à mesure que vous vivez ce qui est écrit, vous apprenez, vous ne pouvez plus douter. Et c'est ça la victoire. C'est pour ça que dans Jacques, considérez les épreuves et que celui qui manque de sagesse, apprends-moi Seigneur à voir les choses. On a tous traversé des épreuves, tous. Et vous verrez qu'en vieillissant, en mûrissant, vous traverserez des épreuves. Moi je vous assure, j'ai traversé des épreuves. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. On ne comprend pas toujours, mais vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. Et le jour où vous les jeunes chrétiens, vous commencerez à rendre grâce. Vous commencerez à dire, oui, cette épreuve, ben, je l'accepte. Puisque tu nous demandes d'accepter les diverses épreuves, je l'accepte. Nous ne serons pas loin d'avoir des temps de visitation par le Saint-Esprit. Parce que vous avez vu la colère de Dieu qui s'enflamme parce que le peuple murmure. Quelqu'un pourrait dire, c'est disproportionné, ça, c'est quand même drôle de la part de Dieu. Vous croyez que Dieu il fait des choses drôles? Vous ne croyez pas que le cœur de Dieu devait souffrir? Parce que le murmure de se plaindre, mais ça arrive. Il y a plein de trucs qui font qu'on peut se plaindre. La Bible dit, si vous avez sujet de vous plaindre, pardonnez. Il y a des chrétiens, il n'y a pas des gens qui vous irritent? Vous pouvez répondre à mes questions. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous irritent? Peut-être le gars qui est en train de vous parler déjà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous irritent? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui vous irritent? La Bible ne dit pas, ce n'est pas normal que tu t'irrites. La Bible dit, ne t'irrite pas. Dieu comprend. Ça va loin cette affaire, si vous vous mettez en colère. On comprend que Dieu a une certaine même condescendance au fait qu'on puisse s'irriter. Ne péchez pas. Ce n'est pas une espèce de commandement draconien. Je ne veux pas que vous vous inquiétez. Je ne veux pas que vous vous mettiez en colère. Je ne veux pas. Non, si vous vous inquiétez, déposez tout. Ne vous irritez pas, ce serait mal faire. Ne vous plaignez pas. Parce que tout ça, ça attriste Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit en nous. Et ça empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Et ça commence comme ça qu'après Dieu est obligé de mille et une façons pour nous ramener. Parce que le but de Dieu, on va le voir, nous c'est le confort. Je ne sais pas pour qu'est-ce que c'est pour vous la volonté. Pourquoi vous êtes ici? Tiens donc, pourquoi vous êtes ici? Je termine. Je m'arrête à la deuxième page, je vous promets. Pourquoi vous êtes ici? Répondez-vous vous-même, ne me répondez pas haute voix parce que c'est peut-être délicat. Pourquoi vous êtes ici? Répondez-vous à vous, intérieurement, dans le dedans. Est-ce que vous êtes là pour croître spirituellement? Peut-être vous êtes venu pour voir des amis. Est-ce que c'est bien aussi? Est-ce que c'est bien de venir pour voir les copains de notre église, les copines de notre église? Est-ce que c'est bien? Ben bien sûr, mais c'est bien. Mais s'il n'y avait que ça, vous passeriez à côté de quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire, en votre âme et conscience, je suis ton enfant? Peut-être que vous n'êtes pas encore converti, mais convertissez-vous. C'est pas un séminaire d'évangélisation, j'en ferai un peu, peut-être 5 minutes dans le séminaire. Peut-être dimanche matin, pendant la Sainte-Cène, que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent saisir l'occasion de faire la paix avec le Seigneur. Mais j'espère que vous êtes ici pour dire, Seigneur, je voudrais grandir avec toi. Je voudrais devenir le jeune homme, la jeune fille que tu veux que je devienne, parce que vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous qui peut-être vous êtes déjà condamné à rester tout petit, tout minus, à dire voilà, moi je ne ferai rien. Ne partez pas comme ça. Partez du principe où Dieu a un plan, que la volonté de Dieu, elle est bonne. La volonté de Dieu, elle est bonne. Je peux le dire, que la volonté de Dieu, elle est bonne. Mais il faut comprendre tout l'enseignement. C'est vrai que c'est un enseignement, c'est pour ça qu'on va... Voyez, mais commencez par rendre grâce. Commencez par dire, oui, Dieu règne. Il règne sur tout. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il vous faut le comprendre, ça. Dieu ne vous oublie pas. Il y a combien de fois on entend, le Seigneur m'a oublié. Il le disait dans le Seigneur... Est-ce que vous avez déjà pensé ça, que Dieu avait oublié votre prière, que Dieu ne vous avait pas écouté? J'ai raconté une fois, vous savez, moi j'ai passé 5 ans et demi difficiles. 5 ans et demi, le matin quand je me levais, je me posais la question, quelle tuile va te tomber dessus aujourd'hui? 5 ans et demi. Je trouvais que ça faisait long à la fin. Quand l'épreuve s'est terminée, c'était avant de venir à un camp ici, afin que je posais la question au Seigneur. J'étais en train de lire dans le livre des Chroniques, et j'ai posé la question au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as permis 5 années? Puisque j'obéissais. Oui, c'est pas parce que des fois, Dieu peut permettre l'épreuve pour nous ramener à lui, comme Jonas. Jonas, vous voyez, il avait pris la direction Méditerranée, voyez, alors qu'il aurait dû prendre l'autre. Et Dieu permet la tempête pour le ramener dans sa volonté, pardon. Mais là, j'étais dans la volonté de Dieu. Et justement, je m'appliquais, je me consacrais. Avec le recul, je me demande pourquoi je le faisais d'ailleurs. C'est sérieux? Pourquoi je l'ai fait? Pour avoir la bénédiction? Enfin, je m'interroge. Bon, ça c'est un autre sujet. Et quand je suis rentré de Polynésie, j'étais en train de lire les livres des Chroniques, parce que il est parlé d'épreuves. Et regardez avec moi, on va conclure avec ça. Pourquoi Dieu peut éprouver quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a éprouvé 5 ans et demi? Je ne serai pas là. Et je peux vous dire que je ne prêcherai pas sur ce sujet si je n'avais pas vécu ces 5 ans et demi. Deux Chroniques, 32, verset 31, la fin du verset 31. Comme c'est la deuxième phrase, on appelle ça 31b. Deux Chroniques 31b. Dieu, vous y êtes? Lisez-le avec moi. Voilà, Dieu m'a répondu. Ça m'a fait pleurer 5 minutes, j'avais compris. Deux Chroniques 32, verset 31. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et j'ai dit, ben, merci. Merci Seigneur. J'ai pleuré un petit moment. J'ai dit, mais c'est bien. Le Seigneur, il peut, entre guillemets, nous abandonner. Comme une maman, vous savez, qui abandonne un peu son enfant, qui commence à marcher à 12 mois, 13 mois, là, il va se prendre quelques... Voyez? Est-ce que c'est bien, ou est-ce que ça serait bien qu'elle lui tienne toujours la main? Est-ce que ça serait bien qu'il y ait votre maman, là, aujourd'hui, qui vous tienne encore la main? Moi, je pense que c'est bien qu'elle nous l'ait lâché. Je pense que quand Dieu nous abandonne... Il sait ce qu'il fait. Il nous éprouve. Il y a un grand résultat. Et si vous acceptez l'autorité de Christ, si vous acceptez le fait que Dieu règne, si vous apprenez à rendre grâce, si vous êtes capable de dire, mais moi je comprends rien, j'y comprends rien. Mais Seigneur, donne-moi de la sagesse, apprends-moi à voir au moins un petit peu les choses comme toi tu les vois, et que j'apprenne à ne pas douter. Je vais vous dire vraiment quelque chose. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu, de sa puissance. La seule chose, on l'abordera petit à petit, c'est que si on n'accepte pas une épreuve, à la place de durer, admettons 15 jours, elle peut durer 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon, comme à l'école, quand on redoublait. Vous avez déjà redoublé? Oui. Moi, je sais de quoi je parle là. Vous voyez, je pense, si on fait un concours, je pense être dans les premiers. Vous voyez, il y a une école, la vie avec Dieu c'est une école, il y a des classes, et il y a une classe qui s'appelle l'adversité. C'est celle qu'on aime le moins, mais elle existe. Elle existe parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est le seul moyen, ou en tous les cas un des seuls moyens et le plus efficace pour changer. Amen. On ferme. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Demain après-midi, normalement, de 17h à 19h, on aura un débat, parce que ça va soulever des questions. Normalement, ça va soulever des questions. Il n'y a pas de questions? Ça voudrait dire que c'était bien. J'ai beaucoup appris l'humilité dans ces années-là. Ça, il faudra le masteriser, bien entendu. D'accord? Voilà. On a droit à être joyeux aussi. Il faut être vrai. Ouais. Eh bien, on va demander au Seigneur qu'il nous aide. On va prier pour ce... Peut-être qu'on pourrait chanter un autre chant. Un ou deux. Je pense qu'on peut... Les voisins ne seront pas dérangés. Je pense que c'est bien qu'on termine en remerciant Dieu. Peut-être qu'on exprime sa foi. Que vous fassiez une prière dans votre cœur. Dans votre cœur, faites-la. Peut-être que notre frère qui dirige la louange... Je ne sais pas comment il va diriger le moment. Mais... Répondez à cette prédication. Que direz-vous? Voyez, vous avez vu cette... Dieu, il attend ce qu'on exprime quand même. Répondez à cette prédication. Peut-être que vous n'avez pas tout compris. Mais dites-lui, Seigneur, aide-moi à comprendre que tu règnes au siècle des siècles. Aide-moi à comprendre, Seigneur, que tu peux pas me mépriser. Dieu, il vous aime. Moi, j'ai des enfants. Donc jamais on voudra leur faire du mal. Alors nous, qu'on est imparfaits, méchants comme nous sommes, on donne de bonnes choses, alors Dieu, il sait. Mais je vous rappelle, vous avez un potentiel pour votre Église, pour votre nation peut-être. Vous ne savez pas, mais Dieu le sait. On ferme les yeux, hein? Peut-être ceux qui ne sont pas convertis aussi, qui ne sont pas baptisés, prenez ce week-end au sérieux. Soyez peut-être, comme dit la Bible, soyez intelligents pendant ce week-end. Dites, oui, je suis venu parce qu'il y a des copains, mais... Est-ce que vous pensez à votre éternité? C'est quand même une de nos responsabilités. Je suis là pour enseigner, pour exhorter ce week-end. Mais je sais aussi que s'il y a des pécheurs, je me dois de leur demander de se repentir. Parce que l'enfer est une réalité. Si la bénédiction est une réalité, l'enfer en est une autre aussi. Répondons à cette prédication. Vous qui êtes venus dans ce sens de croître spirituellement, de dire, Seigneur, j'ai le souci quand même de discerner ta volonté, répondez à cette prédication avec quelques mots, avec un merci ou avec une phrase dans votre cœur. Vous savez que Dieu regarde dans le cœur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes à tes pieds. Tu permets que ce centre existe pour que nous puissions nous retrouver sous ton regard. Tu savais le potentiel qu'il y avait dans le cœur de Pierre lorsqu'il n'était qu'un simple pêcheur de poissons. Et tu savais ce qu'il fallait qu'il traverse pour devenir cet homme de Dieu. Tu savais le potentiel qu'il y avait dans le persécuteur Saul de Tarse. Tu savais ce que tu pourrais faire avec un jeune homme comme ça. Merci d'avoir pu le faire. Et je sais, Seigneur Jésus, que tu connais le potentiel qu'il y a dans le cœur de ces jeunes hommes, de ces jeunes filles, qui sont présents et qui seront présents à ce séminaire. Seigneur, nous croyons que ta volonté, c'est que nous puissions croître. Que ta volonté, elle est bonne. Vraiment, je te prie pour tous ces jeunes qui participeront à ce séminaire, que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu puisses les marquer, au-delà d'un impact intellectuel, par la compréhension des Écritures, que tu touches vraiment leur cœur. Seigneur, que ce ne soit pas que de l'enseignement théologique, mais que vraiment ce soit des moments où ton esprit va nous bénir et nous toucher. Oui, tu bénis ces jeunes. Seigneur, ce sont tes enfants, et certains vont le devenir. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ce week-end contribue à ce que ton bon esprit puisse se manifester. Donne-nous cette grâce de savoir, de réapprendre à méditer ta parole. Oui, de considérer toutes les épreuves comme une occasion d'accomplir des progrès avec toi. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Que ton nom soit béni. Amen.